Barbara Glosewski, vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS et vous avez consacré l'essentiel de votre travail aux aborigènes d'Australie. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages et votre dernier livre s'intitule « Guerriers pour la paix », livre dont nous allons parler au cours de cet entretien. Mais pour commencer, vous êtes l'une des invitées du Salon du Livre du 1er mai à Arras. Ce salon est consacré aux livres d'expression populaire et de critique sociale. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette appellation ?
Écoutez, tout à fait, parce que j'ai un certain engagement en anthropologie depuis 30 ans que je travaille avec les aborigènes et puis plus généralement à mettre en valeur la parole des peuples autochtones. Là, il y a un entretien qui vient de sortir dans la revue Vacarme. Aborigène, anthropologie d'une exigence de justice, où justement je commente ce dernier livre, Guerriers pour la paix, la condition politique des aborigènes vue de Palm Island. Palm Island est une réserve aborigène qui a été créée en 1918, où on a déporté des aborigènes provenant de tout l'état du Queensland, mais de 40 langues différentes. Et pourquoi est-ce qu'on les a déportés là, ceci jusqu'aux années 1970? Eh bien parce que justement, ils résistaient à la colonisation, pas avec des fusils, simplement en demandant à être payés pour leur travail quand on ne les payait pas, ce qui était la règle jusqu'aux années 60, au milieu des années 60, où ils ont eu des droits de citoyens comme australiens, comme les autres. Avant, on n'était pas obligé de leur payer des salaires. Ensuite, on les déportait quand ils refusaient de partir des terres que les colons convoitaient. On les déportait quand ils étaient, même les enfants, métis, hein, que soit résultant de viols de leur maman ou bien d'histoires amoureuses qui étaient illégales dans cette situation d'apartheid, où les aborigènes n'avaient pas le droit. Vous devez demander des autorisations spéciales pour pouvoir avoir un conjoint non aborigène. Et puis voilà, donc Palm Island s'est développé au cours des générations avec cette population qui était vraiment très maltraitée. Déjà dans les autres réserves c'était difficile en Australie, mais particulièrement à Palm Island parce qu'on considérait ça comme une réserve de punition. Mmh. Et en 1957, ils ont fait la grève, ce qui a absolument étonné les Australiens à l'époque, donc ça a fait beaucoup de bruit dans la presse. Et là aussi, les meneurs de la grève, pourquoi faisaient-ils la grève? Tout simplement parce qu'ils mouraient de faim. Hein, ils étaient très peu payés et pas suffisamment pour pouvoir manger. Donc c'est des femmes au départ qui ont dit qu'elles n'arrivaient même plus à nourrir leurs enfants. Donc voilà, et y a une dizaine de meneurs de la grève qui ont été pour le coup exilés de l'île, qui était devenu leur lieu de vie, et dispersés dans d'autres réserves du Queensland. Et moi, je me suis retrouvée dans cette région. Donc l'île, elle est à peu près à 20 minutes en petit avion ou à 2 heures de bateau de la ville de Townsville, dans le nord-est de l'Australie, sur la côte tropicale, là où il y a les coraux, la barrière de corail. Donc j'étais là-bas invitée par l'université James Cook, et quand il est arrivé, donc en novembre 2004, un événement dramatique, un aborigène qui était arrêté pour ivresse, officiellement pour ivresse, mais officieusement parce qu'il avait fait une petite remarque aux policiers sur cette île, une heure après, était mort. Et donc mort et retrouvé, d'après donc l'autopsie qui n'a été donnée à la population qu'une semaine plus tard, avec 4 côtes cassées, le foie scindé en deux, et donc il était mort d'une hémorragie interne. Et ce n'était pas la première mort en garde à vue d'aborigène, c'était la 243e, et jamais un policier n'avait été inculpé encore pour ce genre de violence.
Ce qui était le cas cette fois-ci, mais suite à une révolte de la population.
Voilà. Donc les aborigènes de l'île avaient quand même été très patients, parce qu'ils attendaient l'autopsie pendant une semaine. Tous les jours, ils se réunissaient sur la place du village, devant le supermarché. Et au bout d'une semaine, quand on leur a lu le résultat de l'autopsie et que le commentaire c'était qu'il était mort, enfin que cette blessure du foie scindé en deux était due à une chute en rentrant dans le commissariat, là, ils n'ont pas accepté cette interprétation. Ils ont marché sur la station de police qui a brûlé dans l'heure suivante. Et donc les gens de l'île ont pris peur, et donc la police a demandé une intervention depuis le continent. Et pour la première fois aussi dans l'histoire de l'Australie, c'est une brigade du type anti-terroriste qu'on a envoyée sur l'île quand déjà tout était calme, mais dans la nuit, ils ont forcé les portes des gens qui dormaient pour aller arrêter donc à peu près 17 aborigènes considérés comme les meneurs de cette émeute, ce qui a été appelé l'émeute de Pine Island, le riot. Et ils ont été donc envoyés sur le continent où ils n'avaient plus le droit de revenir en ville. Ils ont eu les uns après les autres des procès, mais ça a duré pendant des mois et des mois. Ils n'ont pas eu le droit, par exemple, de participer aux funérailles de celui pour lequel ils s'étaient révoltés. Et entre-temps, grâce, c'est mon argument dans le livre, c'est grâce à cette révolte que finalement l'enquête a été menée jusqu'au bout. Et elle a pris 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, le policier a été jugé responsable de cette mort. Donc il y a eu pour la première fois un procès avec un jury entièrement blanc qui l'a acquitté.
Oui.
En revanche, ceux qui étaient considérés comme les meneurs de l'émeute, et particulièrement Lex Wotton, avec qui donc j'ai fait ce livre, ont tous des aborigènes, eux ont fait de la prison. Et Lex Wotton a pris 6 ans pour avoir donc participé à ce mouvement de résistance. Et il va sortir de prison en juillet. Donc plus tôt, parce qu'en fait le juge a admis que, c'est ce que je raconte dans le livre, lui a servi de médiateur pendant tous ces événements. Il n'incitait pas du tout la population à rester dans la violence, au contraire, il essayait de négocier avec les policiers tout ce qu'il demandait. Le groupe là, qui n'était pas très nombreux, ils étaient une centaine en fait sur l'île, avec plein d'enfants, des femmes, la mère de l'ex-Wotton elle-même, qui elle aussi a été arrêtée. Ils demandaient aux policiers de partir pour qu'ils puissent résoudre les choses entre eux, quoi, parce que la situation était si tendue. Donc, le juge a admis que l'ex avait... Il y a eu au moment des témoignages, donc de beaucoup de témoignages, qui montraient que l'ex avait servi donc de médiateur pour calmer la foule. Et donc, c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il a été considéré comme leader. Vous voyez, c'est toujours des choses qui sont retournées, puisqu'il avait la capacité de calmer la foule. On pensait que, de fait, c'était lui aussi le meneur. Donc, avec ces arguments-là, il n'a pas fait 6 ans de prison, mais il peut sortir de prison au bout de 2 ans. Et donc, on va fêter la sortie de prison en Australie cet été, avec une version abrégée du livre français pour demander une amnistie de son cas. Voilà.
Alors cet événement à Palm Island vous sert en fait de grille de lecture de la condition générale des aborigènes en Australie. Vous les désignez comme des réfugiés de l'intérieur. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous faites une comparaison entre leur situation et la situation des migrants réfugiés en Australie, qui sont parqués eux aussi.
Par rapport à la politique australienne, donc, qui a considéré les aborigènes comme, alors même qu'ils sont justement des autochtones, hein, ça fait avec les études et recherches archéologiques, on sait qu'ils descendent de populations qui étaient là depuis au moins 60 000 ans, mais on leur a pas donné le droit de citoyenneté avant 1967. C'est un référendum donc auquel n'ont participé que les non-aborigènes. Qui a permis de les intégrer donc dans le système de citoyenneté générale. Il y avait des aborigènes qui avaient des papiers à cette époque-là, à condition qu'ils signent une sorte de certificat où ils s'engageaient à ne plus être aborigènes. C'est-à-dire en disant qu'ils ne fréquenteraient plus leur famille aborigène, par exemple. Ça, c'était la condition pour avoir un travail payé. Donc il y a vraiment une longue tradition donc de mise à l'écart de ce qui est différent. Et c'est avec cette attitude-là aussi que le gouvernement australien, pendant très longtemps, a considéré les migrants, non pas les migrants qui vont trier sur le volet à l'HCR dans les camps de réfugiés européens, pour leur donner des papiers et là les accueillir très bien. Il y a il y a toute une infrastructure pour accueillir les migrants à partir du moment où ils ont les papiers. Mais en revanche, en Australie, il y a depuis 3 décennies, il y a eu plusieurs vagues de migrants clandestins. Il y a eu les gens qui venaient d'Asie du Sud-Est, il y a eu les jeunes étudiants de Tiananmen qui avaient réussi à arriver par un petit bateau dans le nord de l'Australie. Ils s'étaient perdus dans la jungle du nord. Ils avaient été retrouvés au bout de... Ils se, enfin, ils ont débarqué dans une ferme au bout de 2 semaines. Ils avaient perdu quelqu'un qui avait été mangé par un crocodile. Ça a fait, à l'époque, un véritable drame parlementaire et le Parlement avait décidé de n'en garder que 5 ou 6, ceux qui étaient très brillants dans leurs expertises respectives, ingénieurs, etc. Ils ont renvoyé tous les autres en Chine, ce qui était vraiment les envoyer en prison, quoi. Mmh. Et donc, ensuite, bah, évidemment, il y a d'autres vagues avec tous les conflits qu'il y a dans le monde. Il y a d'autres gens qui arrivent sans papier. Et comme il y a eu des camps qui ont été donc construit dans le désert, tout près d'ailleurs des endroits où autrefois les aborigènes étaient enfermés dans des réserves, des camps avec des barbelés, où les enfants n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Et donc il y a eu tout un mouvement d'ailleurs qui avait été mis en scène par Ariane Mouchkine ici en France dans son spectacle « Dernier caravansérail ». Je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui.
Où on voyait justement des scènes australiennes où c'est un traitement hyper technologique en fait, mais complètement inhumain de ces cas de réfugiés. Donc il y a eu aussi tout un scandale d'un bateau qui était au large d'Australie avec des réfugiés et le gouvernement australien leur a interdit d'aborder. Et alors que le bateau était en train de couler, donc heureusement il y a un autre paquebot qui passait par là, hollandais, qui a donc récupéré tous les réfugiés qui allaient se noyer et qui les a emmenés ailleurs. Mais à l'époque, pour excuser le fait qu'ils ne les avaient pas laissés accoster, ils ont prétendu que les réfugiés avaient jeté leurs enfants dans l'eau pour obliger les autorités à les laisser accoster, enfin bon, des choses de ce genre. Alors, tout ça a duré en fait jusqu'en 2005, où il y a eu un grand scandale en Australie, parce qu'une femme australienne d'origine autrichienne, mais déjà qui avait son statut d'Australienne depuis 19 ans, qui s'était mariée, qui avait des enfants, s'est perdue en brousse. Et elle avait un traitement à suivre, et donc sans ce traitement, eh bien, elle a eu un problème de mémoire, et donc elle a été arrêtée et mise dans un camp de réfugiés. Il a fallu 9 mois à sa famille pour la retrouver. On est vraiment dans un univers à la Kafka.
Oui.
Et donc ça a fait un scandale, parce que voilà, il s'agissait pas d'un réfugié à la peau basanée, il s'agissait d'une femme blonde. Qui avait sa vie bien australienne, et on s'est aperçu, ce sont les réfugiés du camp qui sont intervenus pour demander à ce qu'elle soit libérée, et la bureaucratie n'arrivait pas à faire passer les dossiers d'une étape à une autre, alors qu'en même temps sa famille avait des avis de recherche un peu partout pour essayer de la retrouver. Donc suite à ça, les camps ont été ouverts à des enquêteurs, et on a retrouvé 230 Australiens qui étaient enfermés par erreur.
Oui.
Qui n'arrivaient pas à prouver qu'ils étaient australiens.
Alors, un autre point, dans votre livre, vous parlez d'un fort mouvement aborigène dans les années 70, avec un mouvement de résistance et de création très inventif, et vous faites état aussi, suite à ce mouvement, de phénomènes d'autodestruction dans la population aborigène, d'une violence tournée vers elle-même. Et vous parlez de survie au désastre. Votre travail, vous le désignez un peu comme une anthropologie de la survie au désastre.
Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas généraliser ni dans un sens ni dans un autre. Les aborigènes en Australie vivent une vie très différente selon les régions où ils sont, selon leur histoire, selon leurs alliances. Donc, des créateurs, il y en a vraiment beaucoup. Il y a eu un immense mouvement qui continue en partie encore aujourd'hui, mais qui était parti de la génération donc des anciens de peinture sur toile et ou sur écorce, pour notamment faire connaître leurs droits à la terre en peignant leurs liens ancestraux avec des ancêtres liés à des lieux particuliers. Et donc ces peintures-là qu'on peut voir maintenant dans les musées du monde entier, y compris là en ce moment à l'exposition La Fabrique des Images au musée du Quai Branly à Paris, Donc ces peintures ont eu un immense succès et ont été utilisées notamment en justice dans leurs revendications territoriales. Donc ça, c'était une forme de création, mais il y a eu aussi énormément de formes de création de sociale, d'autogestion pour quand ils ont eu officiellement le contrôle de leur communauté après l'ouverture des réserves. Ils ont essayé toute une série de choses pour répondre à tous les besoins, que ce soit le logement, le travail, l'éducation, pour valoriser les langues, enfin leur langue. Il y a plus de 200 langues en Australie et des centaines de dialectes, donc il y a eu des programmes adaptés pour les écoles bilingues. Donc sur tous ces plans-là, ils étaient effectivement très créateurs, et de même, il y a beaucoup d'aborigènes qui vivent en ville. C'est d'ailleurs en ville qu'avaient commencé les premières coopératives de soins pour les aborigènes, aussi le mouvement qu'on appelle l'INCAP, qui consistait à aller chercher au départ de manière illégale les archives qui étaient interdites sur l'ascendance de différents aborigènes, qui avait été justement caché parce qu'il y a eu toute une politique depuis 1905 jusqu'aux années 70 de ce qu'on appelait en anglais le blanchiment, whitening, des aborigènes, le fantasme étant qu'en mariant les métisses, les jeunes filles métisses à plus clair qu'elles, petit à petit on éradiquerait la couleur noire des aborigènes. Et donc, beaucoup de jeunes aborigènes, après 3-4 générations, ne savaient pas qu'ils étaient aborigènes parce qu'ils étaient enlevés à leur mère. C'est ce qu'on appelle la Stolen Generation. Ils étaient placés chez des Blancs pour travailler à leur service. Et puis après, ils se mariaient. Voilà. Et on avait la première génération, on leur disait que leurs parents, grands-parents, c'était vraiment... très très mal d'être aborigène. Et donc ensuite, petit à petit, pour certains, ils ont oublié. Donc il y a eu tout ce mouvement dans les années 70 qui est parti des villes, d'aller chercher les archives. Et ensuite, officiellement, c'est devenu une commission royale, puisque l'Australie dépend encore de la couronne d'Angleterre, ce qui permet aux aborigènes, leur a permis plusieurs fois de faire justement des grandes enquêtes pour dénoncer au Parlement, sous forme de rapports et de recommandations, des abus de ce genre, et notamment donc le fameux rapport sur la génération volée, Stolen Generation, qui a ensuite incité un mouvement de retour vers certaines communautés des aborigènes des villes, qui ayant découvert d'où ils venaient par leurs parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents, essayaient de se ressourcer auprès de leurs ancêtres tribaux. Alors ça s'est plus ou moins bien passé, mais pour le coup, ça a un peu changé la configuration générale. Et dans toute cette mise à jour des traumatismes, le manque de pouvoir pour agir sur sa vie quotidienne, parce que l'Australie a vraiment, enfin les gouvernements successifs ont eu beaucoup de mal à accepter d'écouter ce que les aborigènes proposaient, c'est un phénomène assez connu. Quand on n'a pas de moyens de contrôler sa vie, on s'en prend à ce qui est le plus proche, à ce qui est soi, et donc à sa femme, à ses enfants. Donc il y a eu beaucoup de violence dans certains endroits. C'est pas tout le monde, c'est pas partout. Et donc en 2007, particulièrement, le gouvernement australien a réagi. Dans le territoire du Nord, en imposant une loi martiale qui a réannexé au profit du gouvernement fédéral pour 5 ans toutes les terres que les aborigènes avaient réussi à récupérer par leurs revendications territoriales qui avaient pris une décennie. Et donc ils sont à nouveau sous tutelle de l'État. Et on les point liés par rapport à toutes les décisions qu'ils prenaient auparavant. Alors, il est vrai qu'une des raisons pour laquelle il y a eu cette démarche aussi, c'est parce que dans les instances qui ont été créées dans les années 70, soit par élection, soit par nomination, il y a eu de la corruption. On voit ça dans d'autres pays, dans des pays décolonisés, dans des pays qui sont devenus souverains dans le Pacifique aussi. Quand la gestion est confronté à une bureaucratie qui est toujours là à proposer de l'argent donc et pas vraiment des solutions pratiques, ou bien à imposer des normes qui ne sont pas celles qui concernent les gens, et bien ça laisse toujours la place à des dérives et à la montée de certaines personnes qui ne travaillent pas vraiment pour le bien des leurs, mais plutôt à leur profit personnel.
Alors, une dernière question. Votre livre s'intitule « Guerrier pour la paix ». C'est une contradiction, c'est une articulation particulière. Et qu'est-ce que ça a à nous apprendre, à nous ?
Oui, alors, guerrier, c'est parce que le terme « warriors » en anglais est un terme qui a été donc utilisé par un certain nombre d'activistes aborigènes, et notamment au moment des événements de Palme, pour définir l'ex-Wotan, donc en quelque sorte le bouc émissaire de cette affaire d'émeute, mais pour dire, voilà, c'est notre fierté tribale, traditionnelle. Nous avons eu des guerriers qui se sont battus contre la colonisation, même si c'était avec des lances contre des fusils, et donc c'est un aspect de l'histoire aborigène et de l'histoire australienne tout court, qui est assez sous-estimé dans la version officielle de l'histoire de la colonisation australienne. Et on la présente, contrairement à celle des Amérindiens aux États-Unis ou au Canada, comme si l'occupation des lieux s'était fait sans résistance. Or, de la résistance, il y a eu. Et il y a eu des aborigènes qui ont été tués, y compris des leaders donc, qui arrivaient à faire une sorte de guérilla de résistance. Donc, il y a cet aspect-là. Et guerrier pour la paix, parce qu'il y a un mot très symbolique en Australie, c'est reconciliation, réconciliation. Et qui symbolique pour deux raisons, c'est-à-dire que le gouvernement australien dans les années 70 avait donc répondu à la demande des aborigènes qui voulaient qu'un traité soit signé entre eux et le gouvernement, parce qu'il n'y avait jamais eu de traité signé qui reconnaissait leur occupation du territoire au moment de la colonisation il y a 200 ans, contrairement aux Amérindiens. Et donc ils demandaient le traité. Le gouvernement a répondu en disant non, on ne va pas faire un traité, mais on va faire une sorte de processus de réconciliation entre les Blancs et les Aborigènes. Mais au moment où il y a eu les résultats de l'enquête sur la génération volée, où on a vu qu'en gros un enfant sur cinq avait été retiré aux Aborigènes, à ce moment-là, les Aborigènes ont demandé que le gouvernement fasse demande pardon pour l'histoire passée, pour que justement on puisse aller de l'avant. Parce que dans leur système traditionnel de règlement des conflits, ça se passait de cette façon-là. Et à l'époque, le Premier ministre, il n'y a pas de président en Australie, donc le chef de l'État, avait refusé de faire un pardon, de dire « sorry ». Et « sorry », c'est aussi le terme qui est utilisé par les aborigènes pour les funérailles. Et c'est seulement à l'élection l'année dernière du nouveau Premier ministre, donc il y a eu un changement de majorité, c'est repassé après des années au gouvernement travailliste. L'une des premières choses que Kevin Rudd a fait, c'est de justement faire une grande cérémonie, une grande de sorry, où il a reconnu et détaillé dans une déclaration qui a fait le tour du monde, à l'époque, dans les journaux télévisés, et c'était quelque chose qui était symboliquement assez important pour les aborigènes que ça se fasse.
Alors, il y avait un autre aspect dans ma question, c'est est-ce que le mouvement aborigène a quelque chose à nous apprendre, nous, ici, par exemple, dans notre recherche, par exemple, d'un modèle alternatif de développement ?
Je pense qu'ils sont comme nous, ils cherchent ce modèle, parce que tous les jours ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous avons, c'est-à-dire une économie qui change, des nouvelles technologies qui changent, des lois du marché qui changent, le chômage, de nouvelles maladies. Il y a eu des excès nucléaires, par exemple, en Australie et dans le désert et sur la côte nord-ouest. Il y a encore des aborigènes qui souffrent de radiation face à ces essais nucléaires. Donc, il y a un grand problème en Australie de sécheresse. Donc, on ne peut pas traiter l'eau de la même manière que dans un pays où il y aurait plus d'eau. Donc, bien sûr, ils ont des savoirs très, très importants à tous les niveaux. Mais en même temps, ces savoirs, il faut les réadapter et en collaboration avec d'autres gens qui sont prêts à penser des modes de développement, comme on dit aujourd'hui, lents, qui prennent en compte la qualité de vie et l'avenir de nos enfants.
Barbara Glosewski, merci. On se retrouve, on vous donne rendez-vous au 1er mai à Arras sur le Salon du Livre.
Bien sûr, merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.